de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir, chers auditeurs, comment allez-vous? Je suis très heureuse de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, Mon Indonésie, le magazine culturel, Apprendre l'Indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir à tous, vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie et bientôt je vais vous présenter le journal d'aujourd'hui. Il y a quelques événements importants à informer, entre autres. Le Vietnam rouvre ses écoles après un assouplissement des restrictions. Pour la première fois, il n'y a eu aucun nouveau cas de COVID-19 en Tunisie. Limiter les mouvements de citoyens, la Turquie impose un couvre-feu le week-end. Le chiffre de COVID-19 baisse. Le gouvernement ne devrait pas assouplir la restriction sociale à grande échelle. Le gouvernement reporte l'autorisation des travailleurs étrangers à entrer dans le sud-est de Sulawesi. Les amateurs de tourisme culturel sont invités à reconnaître 5 sites du patrimoine mondial en Indonésie. Et l'Union européenne lèvera les restrictions de voyage. Bon, cher Jolitard, voici la nouvelle incomplète. Le Vietnam rouvre ses écoles après un assouplissement des restrictions. Les autorités des écoles maternelles et des écoles primaires au Vietnam mesurent la température des élèves aux portes lorsque les écoles rouvrent lundi après avoir été fermées pendant un mois en raison de la pandémie du coronavirus. La semaine dernière, plusieurs écoles différentes ont été partiellement rouvertes, en signalant seulement 288 cas d'infection et aucun décès. Le pays d'Asie du Sud-Est n'a signalé aucune infection communautaire pendant près d'un mois, ce qui lui a permis de reprendre ses activités plus rapidement que la plupart des autres pays de la région. La réouverture des écoles est la dernière décision prise par le Vietnam alors que le pays lève les restrictions de circulation dues au coronavirus, bien que les vols commerciaux internationaux et les clubs de danse et les bars de karaoké restent fermés. Pour la première fois, il n'y a eu aucun nouveau cas de COVID-19 en Tunisie. Aucun nouveau cas de COVID-19 n'a été enregistré en Tunisie pour la première fois depuis le début mars, selon les autorités sanitaires lundi 11 mai. La Tunisie, qui a notifié son premier cas de COVID-19 le 2 mars, a confirmé que dans l'ensemble, il y avait 1032 cas avec 45 décès. 745 patients se sont rétablis et seulement 11 patients sont toujours à l'hôpital. La Tunisie a commencé à desserrer le confinement de COVID-19 la semaine dernière en ouvrant une partie du secteur de l'alimentation, du bâtiment et des transports et en permettant à la moitié des employés du gouvernement de reprendre leurs fonctions. limiter les mouvements des citoyens, la Turquie impose un couvre-feu le week-end. Les autorités turques imposeront un couvre-feu, mais seulement pour 4 jours à partir de ce week-end. Cette mesure a été prise pour contrôler les déplacements des citoyens turcs le week-end et les jours fériés au milieu de la pandémie du coronavirus COVID-19. Comme rapporté par CNN mardi 12 mai 2020, l'application de ce couvre-feu a été annoncée par le président Recep Tayyip Erdogan dans un communiqué publié lundi 11 mai heure locale. Erdogan a déclaré que le couvre-feu serait imposé du samedi 16 mai au mardi 19 mai. La Turquie est connue pour n'avoir jamais imposé de confinement national, mais a choisi des mesures comme confinement du week-end et un couvre-feu qui interdit aux résidents de sortir le week-end ou les jours fériés. La Turquie impose également des restrictions de mouvement aux citoyens âgés de 65 ans et plus et de 20 ans et moins. Ces restrictions ont commencé à être assouplies lentement et les résidents ayant certaines restrictions d'âge ont été autorisés à sortir à des jours et des heures déterminés par le gouvernement local. Le chiffre de COVID-19 baisse le Parlement indonésien. Le gouvernement ne devrait pas assouplir la restriction sociale à grande échelle. Le président de l'Assemblée consultative populaire de la République d'Indonésie, Bambang Susatyo, a appelé le gouvernement à ne pas assouplir la restriction sociale à grande échelle, malgré une baisse du nombre de nouveaux cas de COVID-19 au cours de la semaine dernière. Cela a été dit par Bambang Susatyo dans sa déclaration à Jakarta lundi. Le président du groupe de travail pour l'accélération de la manipulation du COVID-19 a déclaré que le taux de nouveaux cas de patients infectés par le COVID-19 avait diminué de 11%. La tendance à la baisse dans ces cas s'est produite dans un certain nombre de régions qui mettent en œuvre la restriction sociale à grande échelle, comme des Kei Jakarta, certaines parties de Java occidentale et Java orientale. Bambang Susatyo a demandé au gouvernement de continuer à être optimiste quant au fait que la politique de confinement qui est appliquée strictement affectera le ralentissement du rythme des nouveaux cas de COVID-19. Le gouvernement reporte l'autorisation des travailleurs étrangers à entrer dans le sud-est de Sulawesi. Le porte-parole présidentiel pour les affaires juridiques, Dini Purwono, a déclaré dans une déclaration écrite lundi à Beijing que le gouvernement indonésien n'autoriserait pas les travailleurs étrangers à entrer en Indonésie. Selon Dini, le gouvernement est déterminé à rompre la chaîne de distribution du COVID-19. Entre autres, en limitant le flux des arrivées humaines de l'extérieur. Cette politique s'applique aux situations normales et est déclarée sûre. Cette question est liée à l'arrivée prévue de 500 travailleurs étrangers en provenance de Chine dans le sud-est de Sulawesi. Jusqu'à présent, les travailleurs étrangers en provenance de Chine ne sont pas encore arrivés en Indonésie. Les amateurs de tourisme culturel sont invités à reconnaître 5 sites du patrimoine mondial en Indonésie. Le ministère du Tourisme et de l'Économie créative invite les amateurs de voyage, en particulier le tourisme culturel, à en savoir plus sur les 5 sites culturels du patrimoine mondial en Indonésie à travers la série de webinaires Tourisme patrimonial. Le webinaire aura lieu le 14 mai 2020 à 14h. Les 5 sites culturels du patrimoine mondial sont le complexe du temple de Borobudur, le complexe du temple de Prambanan, le site de l'ancien Om de Sangiran, le système d'irrigation traditionnel de Subakabali et la mine de charbon ancienne Ombilin Sawahlunto. Le vice-président des produits touristique et organisateur de l'Agence des événements touristiques et de l'économie créative Rizky Andayani, dans sa déclaration du lundi, a déclaré que le patrimoine culturel était l'une des principales raisons pour lesquelles les touristes étrangers et nationaux voyagent en Indonésie, lorsque les conditions de la pandémie de COVID-19 s'est atténuées et permettent le retour au voyage. L'Union européenne lèvera les restrictions de voyage. L'exécutif de l'Union européenne recommandera que les restrictions aux frontières soient progressivement levées mercredi 13 mai. Les activités de voyage interrompues par la pandémie du coronavirus pourront reprendre pour encourager la vie dans 27 pays européens. Presque tous les voyages ont été interrompus en Europe, un coup dur pour le secteur du tourisme qui représente généralement près d'un dixième de la production économique de l'Union européenne. Même au sein de l'espace Schengen, au moins 17 pays ont mis en place des dispositifs d'urgence aux frontières pour contrôler la propagation du coronavirus. La commission exécutive de l'Union européenne fera de nombreuses recommandations qui augmentent lentement, notamment des restrictions d'ouverture. Les contrôles aux frontières intérieures seront lentement révoqués à mesure que la situation sanitaire s'améliorera. Trois pays ont déjà décidé à rouvrir leurs frontières avec d'autres citoyens à partir du 15 mai. Cette condition crée une bulle de voyage au sein de l'Union européenne, lorsque les restrictions en cas de pandémie diminueront. Bon, chers auditeurs, c'est tout les nouvelles d'aujourd'hui. Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé. Bonsoir à tous, vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie. Et maintenant, je vais vous présenter le commentaire d'aujourd'hui, intitulé « La pandémie du coronavirus menace encore divers coins du monde ». Vous êtes avec moi, Audrey. Chers auditeurs, la pandémie de coronavirus n'est pas encore terminée. Certains pays qui avaient commencé à assouplir les règles de confinement réappliquent leur politique d'origine. L'Organisation mondiale de la santé a réidentifié l'augmentation des cas de COVID-19 dans plusieurs pays qui ont assoupli les restrictions. Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom, a identifié de nouveaux pics en Allemagne, en Chine et en Corée du Sud après que les gouvernements du pays ont levé les restrictions. Le gouvernement local de Wuhan en Chine a identifié un nouveau cas de COVID-19 après l'ouverture des restrictions. Un mois après l'ouverture du confinement, il n'y a eu aucun nouveau cas à Wuhan. L'Allemagne signale qu'il y a eu des cas supplémentaires après que le gouvernement a progressivement rouvert ses activités de business. En Corée, les étudiants doivent continuer d'apprendre à la maison. Le gouvernement sud-coréen avait initialement annoncé la réouverture des écoles le mercredi 13 mai, mais le plan a été annulé en raison de nouveaux cas de COVID-19. L'apprentissage à domicile est prolongé jusqu'à la semaine prochaine. En Corée du Sud, les cas positifs de corona jusqu'au week-end dernier ont atteint près de 11 000 personnes avec 35 nouveaux cas. Les centres sud-coréens de contrôle et de prévention des maladies ont déclaré que l'augmentation du nombre de cas s'était produite dans les boîtes de nuit. Par conséquent, un plus prolongé la période de fermeture des écoles d'une semaine suite à une augmentation du nombre de nouveaux cas de coronavirus, le gouvernement sud-coréen a décidé de fermer toutes les installations de divertissement nocturne autour de Séoul. Les autorités locales tentent de retrouver des milliards de visiteurs à Itaewon, un quartier de divertissement de Séoul. D'après les données de l'OMS, les mesures et les politiques prises par les gouvernements de la Corée du Sud et de l'Allemagne, il est prouvé que la pandémie corona menace encore divers coins du monde. Mais Wuhan, qui est à l'origine de la propagation du coronavirus et a été déclaré indemne apparemment, il y a encore de nouveaux cas de COVID-19. Les gouvernements des pays pandémiques COVID-19 ne peuvent être négligents. La communauté doit également s'abstenir de se sentir libre sans restriction. Des précautions et des mesures d'urgence doivent encore être prises dans les pays où les potentiels de nouvelles infections à COVID-19 est toujours présent, y compris en Indonésie. Mon cher auditeur, c'est tout le commentaire d'aujourd'hui.
Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 13 mai 1969, les émeutes raciales sino-malaises. Les émeutes entre Chinois et Malais à Kuala Lumpur en Malaisie ont eu lieu le 13 mai 1969. L'événement a commencé en 1963. La Malaisie souffrait d'un déséquilibre de richesse entre les marchands chinois, qui étaient principalement des commerçants, qui contrôlaient la majeure partie de l'économie malaisienne avec des résidents malais. En outre, les Chinois contrôlaient également la majorité de la richesse du pays. Les émeutes raciales à Singapour en 1964 ont également été l'une des causes du départ de Singapour de la Malaisie. Le 13 mai 1998, les émeutes de mai à Jakarta. Les émeutes de mai 1998 étaient des émeutes raciales contre des Chinois qui se sont déroulées en Indonésie du 13 au 15 mai 1998. Cet incident s'est produit dans la capitale Jakarta, aussi bien dans plusieurs autres régions. Les émeutes ont été précédées par la crise financière asiatique et déclenchée par la tragédie de Trisakti, au cours de laquelle 4 étudiants de l'Université Trisakti ont été abattus au cours d'une manifestation le 2 mai 1998. Durant ces émeutes, de nombreux magasins et entreprises ont été détruits par une masse, principalement de Chinois indonésiens. Cette émeute a pris fin lorsque Suharto a annoncé son retrait de la présidence qu'il occupait depuis 31 ans. Le 13 mai 2011, le bombardement de Shahrzada, un double attentat, a eu lieu le 13 mai 2011 dans la forteresse de Sabkadar, dans le district Shahrzada, en province Khyber Pakhtunkhwa, au Pakistan. Environ 98 personnes ont été tuées lors de l'explosion de deux attentats suicides au centre de formation Frontier Constabulary. Au moins 140 autres personnes ont été blessées. L'explosion s'est produite lorsque les cadets sont entrés dans l'autobus pour prendre 10 jours de congé après avoir suivi un cours de formation. Le Pakistanais Tehrik-i-Taliban a officiellement revendiqué la responsabilité de l'attentat à la bombe et a déclaré l'attaque été en guise de représailles pour la mort de Bin Laden. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Bila hati kian bersih, pikiran pun jadi jernih. Semangat hidupkan gigi, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh, dengan Allah kian jauh.
Chers auditeurs, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, émission d'intervention d'urgence de COVID-19. Restez chez vous et suivez les règles de santé. Et voici donc mon Indonésie. Chers auditeurs, bonsoir. Voici mon Indonésie et pour le titre, la restructuration du crédit de l'impact de COVID-19 plus de 336 millions rupiah. L'Agence de l'Autorité du Service Financier, ou OJK, a révélé que la restructuration nominale du crédit du secteur bancaire était à 336,97 billion rupiah. Cette somme était soumise par 3,88 millions de débiteurs touchés par l'épidémie de COVID-19 jusqu'au 10 mai 2020. Comme l'a rapporté lundi le président du Conseil des commissaires de l'OJK, Wimbo Santoso, dans un communiqué de presse en ligne avec le Comité de stabilité du système financier à Jakarta, lundi. Selon Wimbo, la plupart d'entre eux sont des micro, petites et moyennes entreprises, MPME, soit environ 167 billion rupiah pour 3,42 millions débiteurs. Tandis que la restructuration du crédit des sociétés de microfinance jusqu'au 8 mai 2020, le nombre de contrats de restructuration qui a été approuvé atteint 1,32 millions de débiteurs d'une valeur nominale de 43 millions de roupies. Comme l'a rapporté l'agence de presse Antara, Wimbo Santoso a expliqué que la forme de restructuration du crédit fournit et le report du capital est des intérêts de 6 mois. La politique de restructuration du crédit ne devrait pas exercer la plus grande pression sur le ratio des prêts non performants, tant dans les banques que dans les sociétés de financement. Wimbo Santoso a expliqué qu'avec la restructuration, le ratio des prêts non performants des débiteurs concernés était considéré comme courant, de sorte que les banques et les institutions financières n'avaient pas besoin de constituer une réserve de fonds. Selon lui, le fonds de réserve ne fera que rétrécir l'espace des capitaux et l'espace des sociétés bancaires et financières pour faire l'expansion et offrir du crédit aux clients bancaires. Wimbo Santoso estime que la restructuration des prêts peut freiner afin que le ratio de non-performance n'augmente plus. Il a également révélé que toutes les banques et les institutions financières étaient enthousiastes à l'idée de participer à ce programme. Il a assuré que le crédit continue de croître car le secteur qu'il dispose toujours de facilités de crédit. En outre, dans cette situation, le gouvernement a besoin de crédits supplémentaires pour que le projet en cours se poursuive. Le gouvernement avait précédemment décidé de reporter le remboursement de prêts et la bonification d'intérêt sur le crédit de 6 mois à partir d'avril 2020. La ministre des Finances, Sri Mulyani Indrawati, avait précédemment révélé le montant des bonifications d'intérêt accordées aux débiteurs de micro et petites entreprises, à savoir des crédits inférieurs à 500 millions de rupiah atteignant 6% pour les 3 premiers mois et 3% pour les 3 prochains mois. Tandis que pour les petites et moyennes entreprises avec 500 millions à 10 milliards de rupiah en crédit, une subvention de 3% est accordée pour les 3 premiers mois et 2% pour les 3 mois suivants. La restructuration du crédit devrait fournir un soutien aux débiteurs qui proposent de telles facilités. Le gouvernement a enregistré 1,62 millions de débiteurs dans les banques de crédit rural ou BPR, 20,02 millions de débiteurs aux banques et 6,76 millions de débiteurs dans les sociétés de financement. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
Yeah.
de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Chers auditeurs, l'île de Siladen est l'une des îles au parc national de Bunaken, Manado, au nord de Sulawesi. L'île de Siladen est située à l'est de l'île de Bunaken et se trouve à environ 8 km de la ville de Manado. L'île est accessible en bateau à moteur et dure environ 45 minutes. La beauté naturelle sous-marine, le vent de mer frais, les gazouillis d'oiseaux et la lumière du soleil sont les caractéristiques distinctives de la plage, prêtes à vous accompagner pendant votre séjour sur l'île de Siladen. L'île Siladen elle-même est située non loin de l'île Manado Tua, qui est l'un des meilleurs endroits de Manado pour passer des vacances. Entourée de sable blanc et de mer où se trouvent des récifs coralliens aux formes et couleurs variées, il forme ainsi un très beau parc marin. Une étendue de sable blanc domine cette petite île. En plus d'être un lieu de plongée qui intéresse de nombreux plongeurs professionnels, l'île est également l'un des endroits de plongée en apnée confortable pour tous ceux qui visitent cet endroit. L'île de Siladen est un objet de tourisme maritime. À cet endroit, vous pourrez voir la beauté du parc marin en bateau à voile, en plongée en apnée, plongée en bouteille, en prenant une photo sous-marine ou en jouant et en prenant un bain de soleil à la plage. La plage convient aux touristes qui aiment l'environnement naturel, qui présente une harmonisation des paysages naturels. La beauté de l'écosystème sous-marin est incroyable avec ses récifs coralliens colorés et ses biotes marins. Sur l'île, il y a deux spots de plongée idéaux. L'un d'entre eux est Siladen où la profondeur est de 20 à 50 mètres. Le second à Siladen du Nord. Siladen du Nord n'est pas différent avec Siladen. En outre, vous pouvez voir des récifs de corail en utilisant un bateau en verre qui s'appelle catamaran. Les vagues sur l'île ne sont pas si grosses que vous pourrez nager en toute sécurité. Des arbres embrasés au bord de la mer créent une atmosphère fraîcheur sur l'île. De l'île, la vue sur l'île de Bunaken et Manado Tua est très clairement à l'ouest. Les deux îles sont très belles au coucher du soleil. Le plus bel endroit à observer au coucher du soleil est le pont en bois qui se jette à la mer. Ce pont est vu de façon classique et sur le pont, il y a des bateaux de pêcheurs. De Siladen, on voit clairement la terre la plus au nord de l'île de Sulawesi. Ces vacances parfaites devraient se terminer par un beau crépuscule. Chers auditeurs, c'était notre programme Le Magazine Culturel pour aujourd'hui. Merci de votre attention. À demain.
Ku pikir rasa bahagia ingin selalu bersama di dalam ruang dan waktu.
Chers auditeurs et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ce qui est malade. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Chers auditeurs, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, émission d'intervention d'urgence de COVID-19. Restez chez vous et suivez les règles de santé. Pour la rubrique suivante, voici donc Apprendre l'Indonésien.
Bonsoir tous les amis. On se retrouve dans l'émission Apprendre l'Indonésien. Une rubrique qui vous introduit des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Le sujet d'aujourd'hui est « Apakah benar ini rumah Joko ?» Je répète « Apakah benar ini rumah Joko ?» La signification du titre est « Est-ce que c'est vrai, c'est la maison de Joko ?» Ensuite, je vais vous donner un exemple de conversation en bahasa Indonesia ou en indonésien entre Tony et Dinda, dont le titre est « Apakah benar ini rumah Joko ?» ou en français « Est-ce que c'est vrai, c'est la maison de Joko ?» À la maison de Joko, Tony est devant la maison de Joko. C'est la première fois pour Joko de la visiter.
Permisi. Permisi.
Iya.
Apakah benar ini rumah Joko?
Iya, benar.
Tony ya? Teman Mas Joko.
Oh iya, iya. Joko ada?
Ada. Silakan masuk.
Oh, terima kasih.
Comme d'habitude, après avoir écouté cette conversation, je vais vous introduire des vocabulaires et des phrases indonésiennes liées au sujet d'aujourd'hui. Apakah benar ini rumah Joko? Qui signifie est-ce que c'est vrai, c'est la maison de Joko? Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois. Vous pouvez les répéter après moi. Rumah Joko. Rumah Joko, qui signifie la maison de Joko. Apakah benar ini rumah Joko? Apakah benar ini rumah Joko? Qui signifie est-ce que c'est vrai, c'est la maison de Joko? Teman Mas Joko. Teman Mas Joko, qui signifie êtes-vous l'ami de Monsieur Joko? Joko ada? Joko ada? Qui signifie Joko ela? Silakan. Silakan, qui signifie s'il vous plaît. Silakan masuk. Silakan masuk, qui signifie entrez s'il vous plaît. Quand vous visitez la maison des autres, mais vous voulez assurer l'adresse, vous pouvez dire apakah benar ini rumah Joko? Apakah benar ini rumah Joko? En français, est-ce que c'est vrai c'est la maison de Joko? Vous pouvez la utiliser pour assurer la propriété. Par exemple, apakah benar ini ponsel kamu? Apakah benar ini ponsel kamu? Qui signifie est-ce que c'est vrai c'est ton portable? Apakah benar ini uang kamu? Apakah benar ini uang kamu? Qui signifie est-ce que c'est vrai c'est ton argent? Ensuite, quand vous voulez savoir si la personne que vous cherchez est là ou non, dites Joko ada? Joko ada? Ou en français, Joko est là? Ou complètement, apakah Joko ada? Apakah Joko ada? En français, est-ce que Joko est là? S'il est là, l'autre va vous demander d'entrer à la maison en disant silakan masuk. Silakan masuk. Ou en français, entrez s'il vous plaît. Avant de terminer à apprendre l'indonésien aujourd'hui, pour comprendre plus, écoutons encore une fois la conversation.
Permisi. Permisi.
Iya.
Apakah benar ini rumah Joko?
Iya, benar. Tony ya, teman Mas Joko.
Oh iya, iya. Joko ada?
Ada. Silakan masuk.
Oh, terima kasih.
Chers amis, voilà l'émission Apprendre l'indonésien aujourd'hui. J'espère que cette édition pourra être utile pour vous. Merci de votre attention. Au revoir.
Masih tertinggal bayanganmu yang telah membekas di relung hatiku. Hujan tanpa henti seolah pertanda cinta tak di sini lagi, kau telah berpaling.
biarkan aku menjaga perasaan ini, oh, menjaga segenap cinta yang telah kau beri. Engkau pergi, aku takkan pergi. Kau menjauh, aku takkan jauh. Sebenarnya diriku masih mengharapkanmu.
Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Menjalankan
Chers auditeurs, c'était la dernière chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, émission d'intervention d'urgence de COVID-19 sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voice.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec les informations musicales.
Bonsoir les auditeurs de Voice of Indonesia. Voici la rubrique du magazine musical. Cette édition, je vais vous donner la chanson de Nata Reza. Après avoir publié sa première chanson dont le titre est « Kekasih Impian », le nom de Nata Reza a commencé à être célèbre. Nous pouvons le prouver par le nombre de téléspectateurs du clip vidéo de la chanson sur la chaîne de YouTube qui atteint plus de 5 millions de personnes. Le 7 mai 2019, Nata Reza a encore performé comme un chanteur fiable en publiant la chanson religieuse pour animer le mois de Ramadan cette année. Il a réarrangé la chanson de groupe Ungu intitulée Andai Ku Tahu. Cette chanson était une tendance en 2008 dont les arrangements musicaux sont plus frais et modernes. Andai Ku Tahu, ou en français Si je sais, nous rappelle que la mort est toujours proche de nous. En tant qu'être humain toujours proche du péché, il faut repentir avant de mourir. Bon, chers auditeurs, voici la chanson dont le titre est Andai Ku Tahu, ou en français Si je sais, chantée par Nata Reza. Bonne écoute!
Panjangkan umurku. Andai ku tahu kapan tiba masaku, ku akan memohon Tuhan jangan kau ambil nyawaku. Aku takut akan
thank you.
chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, émission d'intervention d'urgence de COVID-19. Restez chez vous et suivez les règles de santé. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.